Bonsoir.
Bonsoir. Ce soir, j'ai plusieurs questions au sujet de la fête du Vézac. Pouvez-vous nous parler de la fête du Vézac? Que penser, que dire de la fête du Vézac?
Je vous salue tous de venir, non pas écouter ma parole ou vous recueillir autour de ma parole. Je vous salue tous pour simplement être venus saluer aussi de votre part le phénomène qu'est la vie et la transmission de la vie. Quand quelqu'un parle, que ce soit une voix venue d'ailleurs, une voix venue de plus haut, ou que ce soit une voix qui vient depuis votre voisin ou depuis votre ami, quand quelqu'un parle, il y a donc une communication. Et il faut bien réfléchir à ce terme-là, communication. Il n'y a pas simplement échange des paroles, il y a aussi échange de la substance qui a fait naître l'idée et qui a fait naître la parole. C'est sur ce point-là qu'il faut essayer de réfléchir et qu'il faut essayer de travailler. Je vais me servir de ce petit discours comme introduction que vous me posez ce soir. Qu'est-ce que la communication ? Communiquer, ce n'est pas simplement échanger des idées. Communiquer pour cela suffirait simplement de faire de la télépathie, ou encore de se regarder dans les yeux, ou encore simplement de créer des formes, que ce soit à l'aide d'argile ou de sable, et de laisser les formes exprimer par leur couleur, leur volume, laisser les formes exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de l'individu au moment de la construction. Communication, donc, ce n'est pas simplement le fait de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose. Ce n'est donc pas un travail mental. Dans la communication, que ce soit par la parole ou par tout autre moyen, il y a un grand phénomène alchimique. Et tous ceux qui s'intéressent à l'alchimie doivent absolument méditer, approfondir, essayer d'aller très à l'intérieur du sens de la communication. Car tout est communication. Et pas simplement l'échange verbal que l'on connaît tellement dans la société actuelle. La communication peut être quelque chose de complètement différent par rapport à la parole. Communiquer, c'est donc transmettre une substance. Et il y a des paroles, il y a des échanges sur le plan verbal ou sur le plan gestuel. Il y a des échanges qui ne sont en rien des communications. La société est pleine de ces échanges qui n'apportent absolument rien de positif et quelquefois tombent même dans le négatif. Toute la société échange. Toute la société donc communique telle qu'elle croit véritablement communiquer. Chacun a l'impression de se parler. Il suffit d'ouvrir la radio pour écouter des informations, pour écouter le témoignage de quelqu'un, et l'on croit ainsi que les communications, que les échanges sont devenus beaucoup plus faciles. Les personnes peuvent parler de ce qu'elles conçoivent intérieurement, très profondément. On peut aller parler à son médecin, on peut aller parler à son coiffeur, à son dentiste. On peut se confier à l'époux, aux amis, au curé. On a l'impression que l'on peut énormément parler et que l'on parle beaucoup. Et pourtant, lorsque l'on analyse la vie qui a vraiment lieu dans la cellule familiale, dans le quartier, dans la ville, dans la civilisation actuelle, on s'aperçoit qu'en fait tout le monde parle et que personne ne s'écoute. Donc il n'y a pas véritablement de communication. Il y a simplement quelqu'un qui essaie de se faire entendre. Et c'est le drame de la société actuelle. Chacun essaie de se faire entendre, que ce soit en politique, que ce soit du point de vue des réactions et des actions affectives, que ce soit du point de vue psychologique, que ce soit même du point de vue artistique. L'on connaît très bien le malaise de l'artiste qui essaye de faire entendre soit son message, soit sa vision du monde, soit son malaise, soit son bonheur, soit ce qu'il espère pour l'humanité et à quoi il essaie de les sensibiliser. Si s'il y a une première extériorisation, il faut donc, pour qu'il y ait véritablement communication, qu'il y ait aussi quelque part un endroit qui est une réception. Il ne peut pas y avoir communication s'il n'y a pas réception quelque part. Or, tout le monde se dit tout et à propos de n'importe quoi, et personne n'a véritablement l'impression d'être entendu, de rencontrer une ouverture, cette ouverture par laquelle il va se glisser en l'autre, cet autre qui va donc l'accepter tel qu'il est et prendre quelques minutes de son temps pour véritablement s'intéresser à celui qui parle. Qu'est-ce donc que le cœur de la communication ? Eh bien, le cœur de la communication, c'est cet endroit, dans la vibration, mais aussi dans l'espace. Imaginons qu'il y ait un espace. Le cœur de la communication, c'est donc cet endroit où celui qui dit et celui qui entend vont se rencontrer. Cela paraît assez bête de décrire ce processus, en tout cas sans aucune importance pour la spiritualité. Mais c'est en négligeant des petits points comme cela que l'individu fait des efforts où il ne faut pas. Et ainsi, au lieu de développer sa spiritualité, il développe ses frustrations, ses insatisfactions, ses incommunications. Si bien que lorsqu'il veut communiquer avec Dieu, ou avec un ange, voire avec les maîtres, en tout cas avec la lumière, eh bien il s'aperçoit qu'il n'est l'endroit d'aucune réception. Si tu ne commences pas par écouter ton voisin, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Car c'est exactement la même oreille, c'est exactement le même point qui servira de réception. Celui donc qui n'est pas à l'endroit d'une écoute et d'une capacité d'écoute ne pourra pas plus entendre son voisin qu'entendre Dieu ou les maîtres ou la voix de son moi supérieur. Nommez le phénomène comme vous voulez. L'important, c'est que vous compreniez ce que je dis. Pour en venir donc à la pleine lune du Vesak, mais aussi à pratiquement toutes les pleines lunes, mais aussi au solstice et aux équinoxes, à tous les moments cruciaux où donc des planètes jouent des rôles primordiaux face au soleil, ou bien où le soleil lui-même joue un rôle primordial face à la terre et à l'homme, pendant tous ces moments-là qui sont comme des portes ouvertes sur l'univers, sur des hiérarchies ou sur les forces telluriques de la Terre elle-même, pendant tous ces moments-là, il faut donc avant tout savoir écouter. Celui qui ne sait pas écouter ne pourra ni rencontrer le maître, ni rencontrer sa propre âme, ni rencontrer son voisin, ni même s'apercevoir quel poisson réellement est en train de nager dans la rivière. La capacité d'écoute est une attitude qui n'est pas simplement intérieure. C'est aussi un état qui caractérise la personnalité. Tout ce que vous voulez obtenir, que ce soit par l'intermédiaire de l'ésotérisme, de l'alchimie, de la méditation, ou par l'intermédiaire de certains dogmes, ou de l'application de certains dogmes, dont sont issues des techniques. Tout ce que vous voulez obtenir de la part de toutes ces choses, vous ne l'obtiendrez que si une attitude réelle est installée en vous et que cette attitude soit l'état même de votre personnalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pendant les quelques premiers mois de l'année, être ce que vous êtes et ce que vous savez à propos de vous-même. Ce qui n'est absolument pas un reproche. Mais cela devient un reproche lorsque vous vous asseyez pour la pleine lune du Vesak ou pour toute autre chose et que vous essayez désespérément de créer un contact ou avec votre âme ou avec un réseau de maîtres ou avec la lumière ou avec l'univers. Tous les efforts que vous n'aurez pas faits depuis le début de l'année, tous ces efforts vont être autant de boulets qui vont vous empêcher de créer la communication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme cela depuis la vie du dehors ou depuis la vie de sa personnalité encore trop imparfaite. On ne peut pas arriver depuis ce pays-là, s'asseoir quelque part et espérer méditer, espérer communiquer, espérer lire dans l'univers les grands arcanes. C'est impossible. Car le travail qui va vous permettre de lire dans l'univers, de parler avec un Dieu ou avec une énergie, une intelligence, ou de contempler votre propre lumière. Le travail qui va vous permettre d'accomplir cela, ce n'est pas l'instant de la méditation. Ce n'est pas l'instant de la pleine lune. Ce n'est pas non plus l'instant de la Noël, de la Pâque, ou du solstice. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. L'instant, lui, n'y est pour rien. Il est là parce que telle est sa nature d'exister. Comme le Christ lui-même est là sur la terre parce que c'est sa nature d'y demeurer. Et est-ce que les hommes rencontrent le Christ pour autant? Est-ce que l'humanité est plus spirituelle pour autant? Non. Rien n'a lieu dans la mesure où l'individu choisit d'ignorer ce qui a déjà lieu malgré lui. Et bien sûr, la chose n'arrive pas parce qu'elle n'a pas lieu pour lui. Elle peut arriver aux autres, mais dans son petit univers, à lui, l'influence n'arrive pas. Ce qu'il faut donc comprendre pour espérer une communication, une communion ou une osmose avec quoi que ce soit une entité ou un plan ou la lumière. Il ne faut pas simplement faire la chose qu'il faut au moment X ou Y. Il faut aussi petit à petit préparer toute la substance que vous représentez en tant qu'individu. Et cette substance se prépare des mois, voire des années. En tout cas, au moins quelques heures en avance. On ne peut pas comme cela dévisser sa tête de profane pour mettre dessus, sur les épaules, la tête spirituelle. Et maintenant, puisque l'on a vissé la tête spirituelle, on va pouvoir être spirituel. C'est impossible. On ne peut pas changer de tête. L'on doit être une tête. Et cette tête-là, elle va pouvoir faire plusieurs choses. Elle va pouvoir compter quand il s'agit de gérer, que ce soit une entreprise ou que ce soit un métier. Elle va pouvoir analyser quand il s'agit de penser. Et elle va pouvoir communiquer quand il s'agit de s'ouvrir à la lumière ou à Dieu. La même tête est capable de faire toutes ces choses. Et le but des exercices, que ce soit la pleine lune du Vézac ou quoi que ce soit d'autre, le but des exercices est justement d'amener l'individu à son plein développement. Vous ne pouvez pas, parce que la conscience vous y oblige ou parce que le sujet vous intéresse, être monsieur ou madame X ou Y pendant les 8 heures de travail ou pendant la vie familiale, puis vous retirez le soir ou aller à des séminaires, des rencontres et espérer être monsieur ou madame autre chose. Vous allez être toujours la même personne parce que vous venez avec ce que vous êtes. Vous ne venez pas avec simplement l'idée d'être spirituel à cette heure-ci présente. Car la spiritualité, ce n'est pas ce que vous imaginez, ce n'est pas ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous comme projection, voire même parfois comme ambition ou comme désir de spiritualité. La spiritualité, c'est l'instant non seulement présent, mais l'instant présent à tous les moments. C'est-à-dire qu'il vous faut, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, même si ces circonstances appartiennent au passé, parce que des fois il faut retourner dans le passé pour revivre certaines choses, en éliminer la trace. C'est pourquoi il faut que constamment l'instant soit un instant présent, même les instants du passé. car le passé revient toujours sur l'individu. Le passé a fait sa marque et le passé demande toujours son tribut. Il faut toujours qu'il ressorte pour devenir un instant présent, dans la mesure où, ayant été mis dans la mémoire, il n'a pas eu l'occasion d'être un instant présent. Cela veut dire que tout ce qui est passé dans la mémoire, tous ces moments-là sont des moments qui n'ont pas été vécus. L'individu a nourri un blocage ou une absence et il n'a pas pu vivre réellement l'instant. Ce qui fait que la conscience et tout le processus de l'évolution et du témoin qu'est l'âme, ce processus-là prend l'instant, prend la circonstance et loge tout cela dans la mémoire, de façon à ressortir l'instant à un autre moment qui correspond à un moment où l'on va pouvoir pleinement réexpérimenter ce qui n'a pas été expérimenté. Un individu qui vit donc constamment dans l'état et dans l'instant présent est un individu qui ne construit et ne nourrit et ne porte pas de mémoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il est un être sans mémoire et qu'il ne se souvient pas d'avoir vécu telle chose, d'être passé à tel endroit, d'avoir connu tel individu. Il se souvient parfaitement, peut-être même mieux que tous les autres. Cependant, la chose ne l'a pas programmé. La chose ne l'a pas incité à déterminer un comportement, une réaction. Donc la chose n'étant pas un conditionnement, l'individu ne se trouve pas préfabriqué. Celui qui est préfabriqué va dans un certain nombre de circonstances rapprochant l'instant critique, va se trouver donc en état de réaction. La donnée est rentrée dans sa mémoire et comme une teinture qui ne s'en va pas, les circonstances qui vont ressembler à la circonstance en question vont se trouver par la même, dès qu'elles arrivent, teintées par la même couleur. L'individu voyant la couleur se glisser devant ses yeux va réagir. De la même façon que lorsque vous remarquez qu'il y a la couleur rouge au feu de croisement, vous savez que vous devez vous arrêter. Si vous voyez la couleur verte, vous savez que vous pouvez passer. Dans l'esprit et dans l'aura, c'est exactement la même chose. Il y a des couleurs qui s'allument. Et immédiatement, la conscience que l'on pourrait dire périphérique, car il ne s'agit pas là de la conscience divine, c'est la conscience que l'on pourrait appeler celle aussi de la personnalité, cette conscience-là reconnaît la couleur et se dit « Tiens, là il y a du rouge, donc c'est la colère, c'est l'énervement, c'est l'excitation, c'est le refus. » Alors je vais ordonner au cerveau qu'il excite les glandes et que ces glandes relâchent leur substance dans tout le corps de façon à véritablement faire éprouver à tout le système nerveux et plus loin par substance aux émotions, véritablement faire éprouver la colère ou la jalousie ou le refus, la rébellion, etc. L'individu est non seulement une palette de couleurs qui va réagir de cette façon-là à la moindre information, mais c'est aussi un réseau électrique qui va faire en sorte que la couleur puisse devenir active et se réaliser en tant qu'émotion, prise de position, idée, état d'âme, état d'esprit, etc. Et tout ceci se joue sur le clavier qu'est l'être humain. Si ce clavier n'a pas encore décidé quel serait son pianiste, il n'y a pas de pianiste pour déterminer la musique et pour jouer la musique. C'est tout simplement l'environnement qui vient et qui tape. C'est-à-dire un camion passe, c'est très désagréable, et sur le clavier de l'individu, alors il y a comme une main invisible qui passe et qui appuie très fort sur les notes les plus basses et les plus dissonantes. Et l'individu reçoit la chose et il se dit « Mais mon Dieu, que les camions sont désagréables, je déteste ces camions, je ne peux pas les supporter. » Il crée en moi une réaction diabolique. Je me mettrai à claquer les portes, claquer les fenêtres. Je sens même que je suis sur le point de crier sur mes enfants tellement ces moteurs me mettent hors de moi. Cette réaction existe parce que le clavier, qui est l'être, avec tout son réseau de notes et de couleurs, a permis à une main invisible, qui est la masse du bruit du moteur, de venir frapper sur ses touches. Et automatiquement, la musique qui résonne dans l'aura de la victime est une musique grave, dissonante, discordante, etc. Comment faire donc pour pouvoir non seulement intégrer toutes les choses qui paraissent négatives autour de nous, mais pour en plus pouvoir jouer sur nous-mêmes notre propre musique? Comment donc donner à l'homme la possibilité d'être le pianiste de son clavier, tout en étant un individu qui continue à vivre la vie des autres avec les autres, dans le monde des autres? Car c'est cela la pleine lune du Vézac. Ce n'est pas s'ouvrir et attendre qu'un dieu arrive comme on attendrait qu'une colombe passe. Ce n'est pas espérer la venue d'un dieu qui a promis d'être là à cette heure-ci et d'être là non seulement pour se rendre présent, mais aussi pour faire méditer, pour ouvrir les chakras, pour offrir une énergie, pour accélérer l'évolution. La communication, qu'elle soit faite envers un Bouddha, ou envers un Christ, ou un autre Dieu, ou envers un autre homme, cette communication est exactement la même. Et elle commence en bas. Elle ne commence pas en haut. Ce qui fait que l'individu qui imagine qu'au Vézac, il va se passer des choses extraordinaires et qu'il faut essayer d'ouvrir les chakras, d'ouvrir son âme pour communiquer avec Dieu, pour communiquer avec le grand principe bouddhique, espérant qu'ainsi le principe va daigner faire tomber une énergie sur le méditant. Ceux qui approchent la pleine lune du Vézac dans cet esprit-là sont à des millions et des millions de kilomètres de la réalité de la pleine lune. Qu'est-ce donc la réalité? Si pour entendre le haut, il faut commencer à entendre le bas, cela nécessite donc que l'on ait le sens de la réalité et que l'on connaisse ce qui est réel afin de commencer à travailler sur le réel et pas sur la projection, le rêve ou l'imagination ou les suppositions. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est qu'il y a un homme et qu'il y a une communication possible et qu'il y a tout autour l'objet avec lequel on veut communiquer. Il ne faut pas penser que l'objet avec lequel on veut communiquer soit profondément enfoncé dans des dimensions lointaines, comme une planète ou un soleil ou une galaxie serait enfoncée profondément dans l'espace, inaccessible. Les dimensions, tout en étant apparemment éloignées, sont en même temps extrêmement proches. Et l'homme est la synthèse de toutes ces vibrations, de toutes ces dimensions. C'est ce qui permet à l'homme d'être instantanément en communication avec une autre dimension. Que cette dimension soit véritablement à l'extérieur de lui ou à l'intérieur de lui, selon ce qu'il suppose. Rien n'est véritablement à l'extérieur de vous. Tout est en fait à l'intérieur, et non seulement à l'intérieur, mais aussi exactement au même endroit, sur le même point, sur la même ligne. Il n'y a pas là, à cet endroit-là, le plan physique. et puis au-dessus, un peu plus loin, à cause du type vibratoire, le plan éthérique. Et puis un petit peu plus haut, à cause du type vibratoire, le plan astral. Et puis un peu plus haut, le plan mental. Et ainsi l'on met Dieu et le soi suprême, l'âme même de l'individu. On positionne toutes ces sources de lumière en haut de la tour de Babel. Et que se passe-t-il? Puisque tour a été construite, pour aller chercher la lumière en haut, il va falloir monter. C'est ce que l'homme imagine. C'est le processus qu'il crée dès qu'il pense que la lumière se trouve là-haut, en haut de cette tour inaccessible, parce que les plans sont si nombreux, si successifs, les uns après les autres. Qui dit imagination de ce type-là, c'est-à-dire création d'un éloignement, création d'un espace entre l'homme et sa puissance divine, dit automatiquement écroulement de l'homme. Et c'est cela que veut dire l'histoire de la tour de Babel. Cela ne veut pas dire que les hommes étaient devenus orgueilleux et qu'ils ont construit une tour pour approcher Dieu. Et que cette tour a été détruite à cause de leur orgueil, parce que l'on ne peut pas toucher Dieu. Ce qui voudrait dire par là même que pour toucher Dieu, bien il faut être la fourmi ou le tapis qui se plaque bien bas sur le sol, comme s'il était question de soumission absolue, ou comme s'il était question que l'homme soit tellement inférieur à la divinité qu'il doive lui servir de tapis, de carpette, d'essuie-mains, de torchons, de serviettes. Ce n'est pas à cause de l'orgueil que la tour est détruite. Mais par contre, c'est à cause de l'orgueil que la tour est construite. Quand je parle de l'orgueil, je ne veux pas dire la prétention humaine. Je parle simplement de cette fuite en avant que font les hommes quand ils sentent qu'ils ne savent pas ou pas suffisamment et qu'ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ils construisent malgré tout. Au lieu de s'arrêter, de reconnaître qu'ils ne peuvent pas aller plus loin pour l'instant, qu'ils ne peuvent pas construire davantage pour l'instant, qu'ils doivent méditer encore un peu. Cette reconnaissance leur est impossible. Ils disent « Je dois comprendre jusqu'au bout. C'est capital pour mon travail, c'est capital pour ma crédibilité, c'est capital pour mon passage, pour l'initiation, parce que moi je travaille pour l'initiation. Et les maîtres doivent en être contents parce que les autres hommes ne se soucient pas de l'initiation. Alors il faut que je sois prêt et que je mette dans ma tête tout ce qui va pouvoir tenir debout, tout ce qui va pouvoir créer un ensemble logique, et ainsi je serai prêt. » Et ils croient qu'ainsi il faut se gaver de connaissances ou se gaver de choses que l'on présume, que l'on suppose, et en faire des credos, et que l'on doit s'accrocher à ces choses et déterminer que ces choses soient une connaissance. C'est faux. C'est cela la tour de Babel. La tour de Babel, ce n'est pas l'homme orgueilleux qui essaye d'approcher Dieu. C'est l'homme malade qui, voyant sa limite, essaye de faire malgré sa limite, mais avec sa limite. C'est-à-dire qu'il va essayer de construire un entendement, une interprétation, une explication avec sa limite. Sa limite, il en est conscient. Mais il veut avant tout tellement comprendre, tellement savoir, qu'il fait comme si elle n'existait pas. Et ne travaillant pas sur sa limite, eh bien, il la mélange comme un épice à toute sa construction, à tout son pain, ce pain qu'il est en train d'essayer de faire lever. Quand quelque chose ne vient pas vers vous, n'essayez pas d'aller vers la chose. Ayez la sagesse d'attendre que la chose vienne vers vous. Pourquoi ? Et quand je dis cela, je ne parle pas d'une attitude passive, car au contraire, il faut être combattant. Mais être combattant au moment où l'action est nécessaire. Et savoir être méditatif quand l'intériorisation, l'introversion sont nécessaires. Parce qu'il y a des choses qui s'acquièrent par le combat, par l'extériorisation, par les gestes que l'on va faire pour donc s'approprier, que ce soit les énergies, que ce soit des circonstances, ou que ce soit le contrôle sur soi-même. Et puis il y a des choses que l'on va acquérir parce que l'on va arrêter tous les mouvements et que l'on va se mettre dans le centre pour pouvoir recevoir. Il y a donc sur le chemin 50% de choses que l'homme va conquérir par ses propres forces, parce que cela est son devoir, parce que cela ne peut pas se faire autrement. Et il y a 50% des choses que l'homme va obtenir comme par grâce. Parce que cette autre partie de la vérité doit venir d'en haut, doit venir jusqu'en bas. Et ne doit pas être donc conçue, créée par l'homme. Et c'est là le grand équilibre que doit découvrir le disciple quand il veut méditer pour la pleine lune du Vaisak ou pour quoi que ce soit d'autre, pour mener sa vie entière. Il doit savoir aller à l'extérieur, être un conquérant, se battre contre les forces, des fois contre lui-même, et sortir là tout ce dont il est capable. Et en même temps, à l'endroit de la limite, il doit savoir tout arrêter, tout suspendre et être à l'écoute. Et cette écoute est capitale, car c'est par cette écoute qu'il va finalement et en vérité contempler la chose pour laquelle il s'est battu jusqu'à ce point-là. Il faut donc d'une part faire, accomplir, chercher, comprendre, alchimiser, conquérir. Et puis il faut s'arrêter, écouter, dissoudre, absorber. C'est le grand équilibre que l'on trouve dans l'alchimie. Quelles que soient les voies initiatiques que l'individu choisit, quel que soit le mode de son développement, il y a de l'alchimie partout, comme il y a en fait de la prière et de la dévotion partout. Tout est en tout, dans une mesure différente, mais tout est en tout. Ce qui fait que vous allez retrouver de l'alchimie dans pratiquement tous les modes d'évolution. Même dans les axes d'évolution qui ne représentent pas véritablement l'alchimie majeure et qui ne sont pas des écoles d'alchimie. Cependant, l'homme va devoir être un alchimiste s'il veut véritablement intégrer son âme et purifier l'endroit qu'est son corps et son esprit pour recevoir cette étincelle divine. Quand je parle de purification, vous devez savoir que dans mon esprit, il n'y a qu'un synonyme, c'est équilibre. C'est-à-dire que je ne parle pas de purification pour employer le contraire du péché, de la salissure morale et physique. Purification est synonyme d'équilibre. Purification est l'image de l'équilibre. Un être équilibré, c'est donc quelqu'un qui va pouvoir mener en lui les deux types d'énergie qui le composent. Réfléchissez un instant à ce qui compose vibratoirement un être humain. Tout le monde sait, pour s'être un peu intéressé soit au massage ou à l'acupuncture, ou pour avoir entendu le témoignage de ceux qui pratiquent certains métiers. Tout le monde sait que l'homme est composé d'un courant d'énergie positive et d'un courant d'énergie négative. Et que ces deux courants s'entremêlent dans les chakras pour déterminer une énergie que l'on ne peut pas encore véritablement appeler, nommer ou sentir, parce que c'est une énergie neutre. Le plus et le moins, en se rencontrant, dégage le neutre. Dégage donc la lumière. Lorsque l'on parle de positif ou de négatif, on parle d'énergie, de courant vibratoire, ou un petit peu plus bas lorsque l'on s'intéresse à des niveaux plus éthériques ou plus astro, on peut même parler d'électricité. Mais lorsque l'on rejoint, lorsque l'on fait se marier ces deux courants, l'on s'aperçoit qu'ils ne se font pas face à face, qu'ils ne sont pas contraires, mais qu'ils dégagent un état, un troisième aspect qui est la lumière. Il faut donc que l'homme comprenne qu'il est avant tout cette lumière, ces étincelles dispersées dans les chakras. Et il faut qu'il imagine la principale étincelle comme étant le point de repère le plus absolu de son âme qui se situe au chakra coronal, au-dessus de la tête. Il faut qu'il comprenne qu'il est avant tout ce point d'équilibre et qu'il occupe donc dans le corps un espace tout à fait central. Et que depuis ce centre, ensuite, il développe deux énergies, une positive, une négative. Et qu'il va lui falloir non seulement équilibrer ses énergies pour pouvoir lui se maintenir toujours dans le neutre et ne pas basculer un coup à gauche ou un coup à droite, qu'il va donc lui falloir tenir en équilibre ces deux énergies, mais aussi qu'il va lui falloir savoir les extérioriser, les peser, les manifester. Tout ce que l'on appelle le développement humain, l'évolution humaine, l'alignement humain, ce n'est que cela. Il s'agit donc pour la conscience de trouver l'endroit exact de son habitation, c'est-à-dire le milieu, l'axe. Et une fois qu'elle a compris l'endroit exact de son habitation, depuis cette habitation, étendre et manipuler par ses énergies positives et négatives, manipuler sa vie, son destin ou le plan qui s'exprime à travers l'être. La conquête de l'équilibre, c'est avant tout de comprendre comment l'on est constitué, ce qu'est le fondement de l'équilibre. Si quelqu'un essaie d'obtenir l'équilibre parce qu'il sait que les défauts ne sont pas bons, que les défauts sont contraires à la spiritualité et que donc il ne faut être que des qualités, et il se dit, eh bien, je vais développer mes qualités. Je vais essayer d'être bon, d'être généreux, d'être tolérant, d'être patient. Toujours souriant, toujours positif. Ne jamais juger ni critiquer, avoir des pensées pures. L'individu de bonne volonté, qui se met à ce travail-là, s'aperçoit soudain qu'il est submergé par une foule d'énergies contraires qui viennent l'agacer, qui viennent le détrôner de sa bonne disposition. Ces énergies viennent vers la personne tout simplement parce que cette personne ne sait pas se mettre dans l'endroit où véritablement le pouvoir est inscrit et où le pouvoir manipulateur peut s'exercer. Que ce soit pour manipuler un défaut ou une qualité. Vous devez toujours vous trouver dans le centre. Vous n'avez à cultiver aucune qualité. Il est aussi stupide, inutile, bête et humiliant pour la sagesse de cultiver la qualité que d'exercer un défaut. Je vous l'assure, c'est un comportement complètement stupide, idiot, enfantin, qui signe là l'ignorance. Vous n'avez pas à cultiver les qualités. Les qualités sont quelque chose d'aussi inutile que les défauts, d'aussi bête, d'aussi absurde. Par des qualités, l'homme est capable de faire autant de bêtises que par ses défauts. En étant bon, un individu peut par là même devenir un véritable danger public, que ce soit pour le plan des maîtres que pour lui-même ou sa propre famille. Qui vous a demandé d'être bon ? Qui vous a mis dans la tête que vous devez être bon ? Est-ce l'image de Jésus-Christ qui vous implique dans ce comportement ? Si c'est l'image de la chrétienté qui vous implique dans ce comportement, alors je vous dis qu'en étant bon, vous êtes à des années-lumière de la véritable chrétienté. Car il ne s'agit pas d'être bon. Il ne s'agit pas non plus d'être mauvais. Je ne favorise pas les défauts quand je vous dis cela. Je vous parle de l'endroit où le défaut ou la qualité n'ont plus rien à voir avec la vie de l'être ou l'attitude de l'être. Cet endroit, c'est votre divinité. Dans la divinité, il n'y a pas plus de qualité que de défaut. Il y a un état d'être. Cet état d'être, ce n'est pas simplement un résumé de tout ce qui paraît être bon. Dieu n'est pas bon. Ceux qui s'imaginent que Jésus est bon, que Bouddha est bon, que les saints sont bons, que Dieu est bon. Tous ceux qui s'imaginent la divinité comme étant bonne sont des enfants qui ignorent complètement les principes de base de la vie et du rayonnement de la vie. Dans l'univers, il n'y a aucun principe, aucune entité, aucun ange, aucun archange qui se soucie de ce qui est bon. Le point de vue qui permet de juger ce qui est bon est une affaire humaine et pas du tout une affaire angélique ou divine. Il n'y a que l'homme qui s'embarrasse avec ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et il discute énormément. Il bâtit une église même au nom de ce qui est bon. Et avec son drapeau, il va tuer celui qui, d'après lui, n'est pas bon. Et il le juge, et il le critique. Et il défait sa mosquée ou sa synagogue, ou l'autre église, ou sa secte. Et il se dit, mais ce n'est pas bon. Au nom de ce qui n'est pas bon, pour favoriser ce qui est bon, l'homme devient mauvais, extrêmement mauvais. Pire que le diable en personne, pire que l'antéchrist. Et ceux qui essayent de matérialiser le nouveau monde, ceux qui essayent de parler du nouveau monde, sont les êtres qui travaillent à l'encontre du nouveau monde. Ce sont les pires, ce ne sont pas les meilleurs. Et je voudrais que vous cessiez de parler du nouveau monde. Ça suffit. Partout où l'on se retourne pour écouter les méditations, pour écouter les conversations des hommes, on n'entend que cela. Comme on entendrait un refrain à la mode. Le nouveau monde. L'ère des Verseaux. Fin de l'ère des Poissons. Les énergies. Le Tibétain. La société théosophique. Renouvellement de la maçonnerie, ou quoi que ce soit d'autre. On entend parler, on entend jacasser, on entend projeter. Ce ne sont que des projections d'une âme malade et d'un esprit qui ne connaît pas ce qui est vrai, parce qu'il n'est pas dans le centre. Le nouveau monde n'a aucune importance, mais qu'est-ce que cela peut faire qu'il y ait un nouveau monde ? Je vous le demande. Vous ne le connaîtrez pas. il n'existera pas pour vous, puisque vous en parlez. Si vous le situez ailleurs, demain, hors de vous, si vous le situez comme étant l'œuvre prochaine, comme étant l'affaire des autres, de ceux qui viendront, comme étant l'âge que connaîtront vos enfants ou vos petits-enfants, si vous mettez le nouveau monde là-bas, après la venue du second Messie, non seulement vous ne connaîtrez pas le nouveau monde, mais en plus vous n'appartenez même pas à ce monde que vous dites ancien. Vous ne vivez pas, vous n'appartenez à rien du tout, sinon qu'à votre folie, à votre rêve, à vos projections, à vos fantasmes, à votre idéal sans fondement. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de jacasser, de construire, d'imaginer. Celui qui parle, construit, imagine, est en fait un esprit qui ignore. Mais comme la nature de l'esprit est de contempler, puisqu'il ne veut pas contempler la vérité, alors il va se construire une image. Parce que cette image, il va pouvoir la contempler. Alors il faut qu'il imagine la vie.